الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد عباد الله إخواتي في الله فنواصل بعون الله عز وجل قراءة ما يتيسر لنا من شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين لشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بشرح الشيخ دكتور سليمان بن عبد الله القصير حفظه الله تعالى. وقد وقفنا فيما مضى عند كتاب الصلاة وقد ذكرنا قوله رحمه الله إن من شروط الصلاة ستر العورة. إذن ذكرنا كم شرطا. On a cité combien de conditions pour l'instant, Ikhwa, de la prière? Wahiya, Abdurrahman. Al-Awwal.
Al-Tahara min al-Tahara al-Najasa.
Al-Awwal, Al-Tahara. Al-Tahara tashmal shartain. La purification, elle englobe deux conditions. C'est quoi la première? Izalatu al-Najasa. Et la deuxième,
Al-Hadath.
Non, Al-Hadath. Comment on dit? Raf'u. Raf'u Al-Hadath. Taqoul, Raf'u Al-Hadath, ou Izalatu Al-Najasa. Taïd. Wa Thalith, Malik. Ashrat Thalith. Ashratu Al-Thalith. On est resté longtemps dessus. Allez, tu peux citer le quatrième si tu veux. Ou un des six, hein, les gars.
Le waqt.
Aïe, na'am. Taqoul, dukhoul. Dukhoul ou le waqt. Aïe, na'am. Ou le rabi' ou aïe.
Satru al-awra.
Satru al-awra. Ahsant. Donc on a cité les quatre. Hein. Donc les deux premiers, qui sont le fait d'enlever l'état de hadath. D'enlever l'état de hadath, d'ailleurs, donc l'état de hadath, qu'il soit asrar ou akbar, c'est-à-dire un état qui nécessite et qui exige que tu fasses soit el-wudu, soit el-ghusl. D'accord? Cet état, on l'appelle l'état de hadath. Et la deuxième condition, enlever l'impureté, enlever toute impureté. Izalatun najasa. Toute impureté qui se trouve soit sur ta peau, soit sur tes habits, soit dans le makan où tu pries. Ça y est ? La troisième condition, l'entrée de l'heure. L'entrée de l'heure de la salat, dukhul al-waqt. Et la quatrième condition, qui est satru al-awra, c'est-à-dire couvrir al-awra. Couvrir al-awra. Ça y est. يقول الشيخ ماذا من شروطها ستر العورة بثوب مباح بثوب مباح ما هو حكم الصلاة في ثوب محرم يقول الشيخ cacher sa aura avec un vêtement licite. Quel est donc le jugement de la prière dans un vêtement illicite?
Si c'est comme l'eau. Le qu'on a volé. Le qu'on la prière elle est valide. Par rapport aux ablutions sont valides. Mais le, on a rien péché.
Ahsant. Al-Rajihu anna as-salata fi thawbin muharram sahiha ma'a al-ithm. Sahiha ma'a al-ithm. Li'anna at-tahrim laysa min ajli as-salat. وإنما من أجل حرمتها Parce que, donc je disais, celui qui prie dans une dans un habit muharram, illicite, comme l'homme qui prie dans un habit en soie, par exemple, un habit de soie, ou un habit volé, ou un habit, yani, qui a été pris de force à quelqu'un. D'accord ? Eh bien, cet habit-là fait qu'il a commis un péché, na'am, mais sa prière, elle est valide. Sa prière, elle est valide. Mais bien sûr, elle est diminuée. Forcément, elle est diminuée, mais elle est valide. Il n'aura pas à la refaire. Il n'aura pas à la refaire, même s'il se repentit après. Vous comprenez ? Mais il aura commis un péché. Parce que l'interdiction, elle ne concerne pas la prière ici. L'interdiction, elle concerne le vol, la soie. Donc, que ce soit dans la prière ou en dehors de la prière, c'est interdit dans les deux cas. Vous voyez ? Donc, la prière, elle est valide. L'exemple qu'il a donné le frère aussi, Hafidhahullah, celui qui fait le wudu avec de l'eau qui a été volée. Son wudu, il est sahih ou là, il est batil ? Il est sahih. Mais il a commis un péché. Mais il a commis un péché. Hada huwa ar-rajih. Qala al-imam Ibn Qudama al-Hanbali rahimahullah ta'ala fi al-Mughni al-wajib as-satru. Al-wajib as-satru bima yasturu lawn al-bashara. As-satr bima yastur lawn البشره ان كان خفيفا يعني الثوب ان كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه او حمرته او سواده ها فهذا لم تجوز الصلاه فيه لم تجوز والصلاه في مثل هذا الثوب باطله باطله لأن الستر لا يحصل بذلك الستر لا يحصل بمثل هذا الثوب الذي يبين اللون طيب إن كان يستر لونها إن كان الثوب يستر لونها ولكن يبين ويصف الخلقة يصف الخلقة العورة هنا قال ابن قدامة جازت الصلاة جازت الصلاة فيه لأن هذا لا يمكن التحرز منه لا يمكن التحرز منه يعني مطلقا بكماله طيب نعم concernant la le fait de cacher, couvrir sa aura. Il dit, Ibn Qudama dans le Mughni, rahimahullah ta'ala, il est obligatoire de couvrir sa aura avec quelque chose qui cache la couleur de la peau. Le vêtement dans lequel tu pries doit cacher la couleur de ta peau. Donc si le vêtement dans lequel tu pries ne cache pas la couleur de la peau. Tu vois la couleur à travers le vêtement. Tu vois si la personne a une peau blanche, marron, jaune, etc., rouge. Hein? À travers le vêtement, eh bien dans ce cas-là, sa prière ne sera pas valide. Ne sera pas valide. Pourquoi ? Parce que cette roue ne s'est pas concrétisée ici. On ne dira pas que c'est du setr, que c'est le fait de cacher quelque chose. Tu n'as rien caché. Pour que ce soit caché, il faut que la couleur soit cachée. La couleur de ta peau soit invisible d'autrui. Vous voyez ? Mais si le vêtement cache la couleur, mais il dessine les formes. On en a parlé la semaine dernière, il dessine les formes de la aura, les contours. Les contours des cuisses, par exemple, et autres, de la aura. Il dit, Ibn Qudama, la salat elle est valide. Elle est permise. Elle est valide. Parce qu'il dit que cela est une chose qu'il est impossible d'éviter de manière totale. Même des fois avec un qamis, c'est vrai ou pas? Même avec un qamis, dans certaines positions, on voit le contour des formes, c'est vrai ou pas? Quand tu te prosternes, quand tu t'assois, on voit. C'est pour ça qu'il dit que c'est une chose qu'on ne peut pas éviter totalement. Ça ne veut pas dire qu'il faut prier en djinn moulant, taïeb, mais la prière, elle est sahiha. Elle est valide. Même quand tu pries avec un vêtement qui est épais, on verra, dans certains cas, les formes. Comme une femme, quand elle prie avec le djilbab, dans certaines positions, on voit les contours. C'est vrai ou pas? Mais est-ce que sa prière, elle est invalide? Non, elle est valide, sa prière. Le Cheikh Rabi', Hafidhahullah Ta'ala, il dit, celui qui prie avec un djinn, par exemple, le moulant, il est athim. Il a commis un péché. Il a commis un péché. Par rapport à la ressemblance au kuffar. Par rapport à la ressemblance au kuffar. Mais sa prière, elle est valide. On ne dit pas qu'il a toute la récompense dans sa prière. D'accord? Le maximum que l'on puisse dire, c'est que c'est détestable de faire ça. Mais sa prière, elle est valide. Tayeb? Naam. Allahu a'ala. Idan, dhakarna, inna al-aurata thalathatu anwa'. الأول المغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. Donc on avait commencé à citer les trois catégories de aura. Il y a trois types de aura, comme l'ont classifié les ulama dans certains madhhab. Donc le premier type de aura, c'est celle que l'on dit mughallada. Mughallada. Celle de la femme libre pubère. La femme libre et pubère. Donc sa aura à elle, elle est mughallada. C'est-à-dire que tout son corps est une aura. En prière, sauf son visage. Sauf son visage. Et certains ulama ont rajouté ses mains aussi. Sauf son visage et ses mains. Non. Ça, c'est le mughallada. النوع الثاني المخففة. المخففة. وهي عورة ابن سبع أو ابن سبع سنين إلى عشر. فإنها الفرجان. إنها الفرجان. Le deuxième type de aura, celle que l'on dit mukhaffafa. Et celle-là concerne tous les enfants de 7 à 10 ans. Là, on parle de la aura en prière, ikhwan. La aura en prière. Tous les enfants de 7 à 10 ans. Cette aura qui est mukhaffafa, eh bien, ce sont les deux parties intimes. Seulement. Les deux parties intimes. Devant et derrière. Donc, l'enfant qui a 7 ans, qui est Moumayyiz, et qui prie, il peut prier, donc, juste avec de quoi cacher ses parties devant et derrière. De 7 à 10 ans. Et sa prière, elle est sahiha. Elle est valide. Elle a un. النوع الثالث المتوسطة. المتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة من السرة إلى الركبة. Et la troisième catégorie, quoi? Celle que l'on dit متوسطة. Celle-là concerne tous ceux qui ne sont ni des femmes libres pubères et ni des enfants de 7 à 10 ans. Donc tous les autres qui ne rentrent pas dans ces deux catégories-là sont concernés par ou leur aura est mutawassita. Et cette aura, c'est quoi? C'est des genoux au nombril. Des genoux au nombril. Sous elle. Idha kana al-rajul Salla wa lam yastur mankibayhi. Ou lam yastur ahada mankibayhi. Hal salatuhu sahiha? Question maintenant. Donc on a dit, l'aura de l'homme, notamment, est du nombril au genou. Donc, est-ce que ça veut dire que celui qui prie et qui ne cache que ce qu'il a du nombril au genou, est-ce que sa prière elle est sahiha? Hein? Non. Vous n'êtes pas obligé de répondre, je crois. Si vous savez, dites-le. Si, sinon, hein?
Il y en a qui disent que le genou ou le nombril n'est pas inclus dans l'aura.
Ça, c'est autre chose, là.
Il faut comprendre les épaules aussi.
Là, on parle des épaules. Celui qui ne couvre pas, voilà, celui qui ne couvre pas ses épaules. يجوز الصحيح أن ستر المنكبين أو أحدهما في الصلاة للرجل إنما من باب تكميلها وتمامها وأنه ليس شرطا ليس شرطا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي الرجل وليس على عاتقه منه شيء. Donc ce qui est authentique, les frères, c'est que le fait de cacher ses épaules ou l'une de ses deux épaules pendant la prière pour l'homme, on parle pour l'homme, hein, n'est pas une condition. Mais bien sûr, cela va parfaire sa prière. Ça va la parfaire, ça va la rendre plus complète. Mais il n'est pas une condition de validité de la prière. Mais il y a un hadith qui est rapporté par Abi Huraira, dans lequel Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'homme ne prie pas alors qu'il a une épaule qui n'est pas couverte. Yani là, là, لا يصلي الرجل في ثوب الواحد عفوا لا يصلي الرجل في ثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء. Que l'homme ne prie pas avec un seul vêtement alors que son épaule n'est pas couverte. Comment on fait pour répondre à ce hadith? Donc on dit que la prière elle est valide, mais en même temps le prophète il a, hein, il a interdit ici.
Comme le hadith pour le repas.
La.
Tu peux juste redire le hadith.
La yusalli rajulu fi thawb al wahid wa laysa ala atiqihi minhu shay.
Le vêtement, c'est une seule pièce, il doit couvrir les deux épaules.
Là, il dit. Obligatoirement. يفسر هذا الحديث حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الثوب واسعا فالتحف به إذا كان الثوب واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به لأن المنكب ليس بعورة مطلقا المنكب ليس بعورة مطلقا وستره من باب كما قلنا في الصلاة تكميلها هذا هو قول جمهور أهل العلم. En fait, le hadith d'Abi Huraira, il est expliqué par un autre hadith qui est celui de Jabir, qui dit que si le vêtement il est assez ample que la personne se couvre avec, s'enveloppe avec, c'est-à-dire qu'elle enveloppe tout son corps avec, avec les épaules, s'il est ample. Mais s'il n'est pas ample, eh bien qu'il en fasse un izar. Fattazir bi. Ittazara yattaziru. Hein? Mettre la chose comme un izar. Donc, izar, ça sert à couvrir le bas du corps. D'ailleurs, donc c'est la preuve qu'il est permis de prier avec les épaules découvertes.
Il y a les tizars et l'autre mot c'est
Faltahif. Il tahafa, yaltahifu. L'tihaf. Taïeb. Et donc, l'épaule n'est pas une aura. L'épaule n'est pas une aura. Et le fait de le cacher pour l'homme dans la prière, c'est juste pour parfaire la prière, bien sûr. Et c'est recommandé, évidemment. Et c'est l'avis de la majorité. Et c'est l'avis de la majorité des ulama. C'est pour ça là que le pèlerin, des fois tu vois des pèlerins, ils sont tout le temps les épaules découvertes. Même quand ils font Sa'i bayna Safa wal Marwa, même quand ils prient. Voilà là yambari en vérité. Et cela il ne faut pas en vérité. Il incombe aux pèlerins de se couvrir les épaules. Ça, c'est la sunna. La sunna, c'est de mettre le rida au-dessus, hein, en couvrant tes deux épaules et en mettant comme ça, qui tombe devant ton torse. Ça, c'est la sunna. Le seul moment où tu peux découvrir l'épaule, laquelle ?
Pendant le tawaf.
Hein ?
Pendant le tawaf.
C'est quelle épaule que tu peux découvrir ?
Droit.
Non, l'épaule droite. Le seul moment où tu peux mettre le rida sous ton aisselle droite et l'autre bout sur l'épaule gauche, c'est pendant Tawaf al-Qudum. Ça? Tawaf al-Qudum. Ça, c'est le moment où il est recommandé de faire ça. Mais Cheikh Ibn Baz, il dit, rahimahullah, quand tu as fini Tawaf al-Qudum, avant de faire Raka'atayn, eh bien, tu dois te recouvrir les deux épaules. Tu te recouvres les deux épaules. T'as-y-il? Donc, c'est pas tu te découvres yani, de tout le temps jusqu'à la fin du Hajj. Là. Mais malgré ça, la prière, elle est valide. Malgré ça, la prière, elle est sahiha, wallahu a'lam. Naam. Wa mutawassita. Hadhihi hiya awratu man ada ahla al-mughalladha wa ahla al-mukhaffafa. Tayyib. Man ada hum fahum min ahli al-awra المتوسطة المتوسطة فيدخل فيهم من يدخل فيهم الصبي من عشر فصاعدا الصبي من عشر فصاعدا يدخل فيهم الحرة دون البلوغ الحرة دون البلوغ ويدخل فيهم الرجل البالغ وكذلك الأمة الأمة طيب فحد هذه العورة من السرة إلى الركبة لقوله صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة الفخذ هذا الفخذ الفخذ عورة لكن قال أهل العلم يراعى ستر الأمة يراعى ستر الأمة لمواطن الفتنة حتى لا تفتن حتى لا تفتن وهذا في النظر أما في الصلاة للأمة أن تصلي ساترة سرتها إلى ركبتيها فقط لكن الآن الأمة هل هي موجودة الآن الإيمة الله أعلم يعني لا 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 ليست موجودة إلى الآن الإيمة نعم. إذن كذلك ليست السرة والركبة من العورة كما قلت ليست السرة والركبة من العورة قال العلماء اتفقوا على ذلك اتفقوا على أن السرة من الرجل ليست عورة ليست عورة والله أعلم
السرة فقط فقط السرة
الركبة كذلك المتوسطة يا إخوان c'est la aura comme on a dit de tous ceux qui ne sont pas donc des femmes pubères libres et des enfants jusqu'à 10 ans de 7 à 10 ans d'accord donc sont concernés ici qui ? Les enfants à partir de 10 ans et plus, d'accord ?
sont concernées également les femmes non pubères. Les femmes non pubères sont concernées par la Al-Mutawassita. Bien sûr, les hommes pubères et l'esclave femme. On en parle, mais en vérité, ça n'existe plus aujourd'hui. Ça n'existe plus. Allahu alam, ça n'existe plus. Hein? Mauritanie? Je pense pas, akhi. Je pense pas, non. Sinon, ça serait vraiment... On le saurait. La Mauritanie, c'est pas très loin. Non. Al-Muhim, voilà. Ça, c'est les quatre catégories qui sont concernées par cette aura qui est mutawassita. Et cette aura, elle va du nombril au genou. Elle va du nombril au genou. Non. La preuve que cette aura, elle va du nombril au genou, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit la cuisse est une aura. La cuisse est une aura. Naam. Mais concernant l'esclave, femme, même si, comme on a dit aujourd'hui, ça ne court pas les rues, ils disent que devant les étrangers, les hommes étrangers, il faut qu'elles se voilent quand même. Il faut qu'elles se voilent. Surtout les endroits où il y a beaucoup d'étrangers, dans la rue ou autre. Il faut qu'elles cachent ces parties pour ne pas être une fitna. Pour ne pas être une fitna. Lorsque l'on dit, par exemple, que la aura de la petite fille de 7 à 10 ans, c'est seulement ses parties. Mais si la fille a 8 ans, elle a un corps qui est développé, qui est déjà développé, et qui peut donc être une tentation pour les hommes, elle doit se cacher aussi. Dans ce cas-là, elle doit se cacher. Donc malgré tout ce qu'on a dit là, la règle générale est que tout ce qui peut entraîner une fitna et qui peut être une tentation pour les autres doit être caché. Comme l'homme. L'homme aussi c'est pareil. C'est pas parce que ta aura, c'est du nombril au genou, que tu dois sortir torse nu devant tout le monde. Si tu sais que sortir torse nu devant certaines femmes va être une fitna pour elles, et pour toi, dans ce cas-là, tu dois cacher cette poitrine et ce torse. D'accord ? Donc là, on parle vraiment de manière générale. Après, les détails, frère, c'est autre chose. Et pour finir, le nombril. Et le nombril et les genoux ne font pas partie de la aura. Donc la aura, c'est en dessous du nombril et au-dessus du genou. D'ailleurs, certains ont dit qu'il y avait ittifar chez les ulama, mais en vérité, il y a certains qui ont dit que ça en fait partie. Parce que certains ont dit que tu ne peux pas cacher ce qu'il y a au-dessus du genou sans cacher le genou, c'est pas possible. C'est pas possible. Et tu ne peux pas cacher ce qu'il y a en dessous du nombril sans cacher le nombril en même temps. Al-Muhim, voilà. Mais al-Qawl al-Rajih, c'est que cela n'en fait pas partie. Wallahu a'lam.
Qu'est-ce qui fait que ça invalide la prière? C'est cette aura elle est découverte?
Oui, bien sûr.
C'est seulement ça en fait.
C'est quoi que tu voulais savoir?
Parce que comme tu as dit tout à l'heure, si ça dessine les formes, et que sachant que des fois quand on prie, des fois ça dessine les formes, quand on l'a dit non, en fait ça n'est pas la prière en fait.
On a dit quoi tout à l'heure?
C'est ce qu'on a dit.
Sahih.
Mais du coup, si c'est juste transparent ou si ça se découvre, là ça annule, c'est ça.
Si c'est transparent, qu'on voit la couleur de la peau, la prière, elle est bâtée là. Si ça se découvre, ça dépend. Si c'est juste une petite partie que l'on considère que c'est pas grave, c'est rien, quelques centimètres, t'as pas fait exprès, tant ce qui est pas volontaire, bien sûr. Involontairement, on a vu une partie, d'accord? Et que dès que la personne s'en aperçoit, hop, elle tire son habit. Sa prière reste valide. Par contre, si c'est une grande partie, par exemple, toute la cuisse entière, elle a été dévoilée, voyez, si la personne se voile directement, sa prière reste valide. Par contre, si le temps s'est écoulé de manière longue, dans ce cas-là, sa prière ne sera pas valide, elle sera obligée de recommencer du début.
Et le fait de, comme on a dit tout à l'heure, de prier avec un pantalon, on va dire un peu serré, comme les kofas, si on met une veste, on fait une veste autour de nous, comme par exemple quand on est au travail et qu'on prie, qu'on n'a pas de pramis, si on prend une veste ou un pull et qu'on essaie de cacher nos
parties, c'est mieux.
Ok, c'est pas détestable alors de prier dans cette tenue, on va dire. Ce qu'on limite, on va dire.
Il faut faire le mieux que tu puisses, Inch'Allah. Bien sûr, le mieux, c'est un pramis. Si tu ne peux pas, Yanni, couvrir un maximum les contours de tes formes. Par exemple, si tu peux prier dans un sirouel, c'est mieux, parce que sirouel, c'est large. Mais si tu n'as pas le choix, eh bien, mets quelque chose autour de ta taille pour cacher cela, pour ne pas tomber dans le péché, comme l'a dit Cheikh Rabia.
Même si on est seul et que personne ne voit.
Même si tu es seul, bien sûr. Là, on parle de la aura en prière. De la aura en prière. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى أو حفظه الله من عدا المرأة الحرة البالغة وعورة ابن 7 سنين إلى 10 ذكرا أو أنثى فتكون العورة المتوسطة هي عورة الرجل البالغ ومن كان عمره أكثر من 10 سنين من ذكر أو أنثى حتى البلوغ وعورة الأمة البالغة ودليله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم خادمة عبده أو أجيرة فلا ينظر إلى ما دون سرة وفوق الركبة أخرجه أبو داود وسنده حسن والمراد بالعبد الأمة قال ابن قدامة في المغني والحر والعبد في هذا سواء لتناول النص لهما جميعا. Donc il dit ici, tout ce qui est en dehors de la femme libre, pubère et les enfants de 7 à 10 ans, comme on a dit, eh bien cela rentre dans la catégorie de l'aura al-mutawassita. L'aura al-mutawassita. Donc on a cité les 4 qui rentraient dedans. D'accord ? Donc parmi eux, l'homme pubère. L'homme pubère. Ou l'enfant à partir de 10 ans. Ou l'esclave femme ou la femme non pubère. Après, le cheikh cite un hadith sur lequel il y a beaucoup de kalam. Il y a beaucoup de kalam. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, a dit que le hadith, il est muttarib. Il est problématique. Parce qu'il y a beaucoup trop de riwayats, beaucoup trop de narrations différentes qui s'opposent les uns aux autres. Et il n'a pas été possible, en tout cas de par sa science, de faire un tarjih. De dire que ce hadith-là est plus authentique qu'un autre. Donc du coup, on ne va pas en parler, parce qu'il y en a, premièrement déjà, par rapport à ce qu'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah, et deuxièmement, parce qu'il n'y a plus d'esclaves aujourd'hui, donc la question ne se pose plus. La question ne se pose plus. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que la aura de la femme esclave, pendant la prière, c'est des genoux au nombril. Et lorsqu'elle se trouve devant un étranger, eh bien, elle se couvre pour éviter la fitna. Khlas. وعن أنس بن مالك قال كنا إماء عمر. إماء. هناك. يخدمننا أو يخدمننا كاشفات عن شعورهن. تضرب ثديهن أو ثديهن أخرجه البيحقي وقال والآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك صحيحة وإنها تدل على أن رأسها ورقبتها وما يظهر منها في حال المهنة ليس بعورة. والمراد بالمهنة هو الخدمة والعمل، فما تحتاج الأمة خاصة لكشفه حال عملها كرأسها ويديها وقدميها فليس بعورة أمام الأجانب من الرجال، وهذا بشرط عدم كون ما تكشفه يدعو إلى الفتنة بها. نعم، فإن كان يدعو إلى الفتنة بها فلا يحل لها كشفها، فلا يحل لها كشفها. نعم، والمقصود بتقسيم العورة هنا الأمر الواجب الذي لا تحل الصلاة إلا بتغطيته، وأما في حال تيسر اللباس فالمطلوب أخذ الزينة، المطلوب أخذ الزينة كما أمر الله تعالى في الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. Donc il dit ici, le Cheikh Suleiman, hafizahullah, il rapporte un hadith de Anas ibn Malik qui a dit, nous étions, ou plutôt les esclaves de Omar, femmes, travaillaient pour nous, ont travaillé pour nous, ont fait des tâches pour nous, alors que leurs cheveux n'étaient pas couverts. Leurs cheveux n'étaient pas couverts et ils frappaient leur poitrine. C'est-à-dire leurs cheveux, quand elles travaillaient, hein, bougeaient et du coup frappaient leur poitrine. Donc le hadith rapporté par Al-Bayhaqi. Donc l'athar, il est sahih, il dit le cheikh, il est authentique. Et cela prouve encore une fois que la tête, le cou ou tous les membres que la femme esclave a besoin de découvrir au moment du travail, lorsqu'elle travaille, hein? Que ce soit ses mains ou ses pieds, des choses comme ça, eh bien elle peut ne pas les couvrir. Donc le travail, c'est quoi? C'est lorsqu'elle est en train d'accomplir la tâche pour son maître. Donc ce dont elle a besoin de découvrir, comme sa tête, ses mains, ses pieds, n'est pas une aura, à condition que cela n'est pas un risque de fitna. À condition que cela ne soit pas un risque de fitna. Et bien sûr, les sahaba ne sont pas comme les hommes d'aujourd'hui. Mais si cela entraîne une fitna, eh bien, il sera interdit pour elle de dévoiler ces parties-là. Que ce soit ses cheveux ou ses mains ou autre. Voilà. Donc, l'aura ici, dont on parle, c'est celle que l'on doit couvrir pour pouvoir prier. Que ce soit al-mughallaza, al-mutawassita ou al-mukhaffafa. Mais sinon, lorsque la personne, bien sûr, le peut, ce qui est fortement recommandé, c'est qu'elle mette ses meilleurs habits ou qu'elle s'embellisse de par son état vestimentaire pendant la prière, comme elle le peut. Ça, c'est une recommandation que l'on tire également du verset d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-A'raf, le sens rapproché, ou en descendant de Adam, خذوا زينتكم, prenez ou vêtissez-vous de zina, de votre zina, c'est-à-dire des vêtements avec lesquels vous allez vous embellir, c'est-à-dire embellissez-vous pour la prière, inda kulli masjid, c'est-à-dire inda kulli salat, dans toute prière embellissez-vous avec des beaux habits. Donc cela englobe, ce verset-là, il englobe deux choses. Le fait de couvrir sa aura, qui est obligatoire. Et deuxièmement, le fait de mettre des beaux habits pour la salat. C'est bon, Yahoua? Non. Est-ce que c'est clair, les frères? ومنها استقبال القبلة استقبال القبلة. فهذا هو شرط كم؟ الخامس من شروط الصلاة، وهو استقبال القبلة. والمراد بالقبلة ما هو؟ المراد بالقبلة ما هو يا أخوة؟
الكعبة.
الكعبة. وسميت قبلة لماذا؟ لماذا سميت قبلة؟ لأن الناس يستقبلونها، يستقبلونها، يتوجهون إليها بوجوههم، ولهذا سميت قبلة، يقصدونها ويؤمونها. أجمع المسلمون على وجوب استقبال القبلة، هناك إجماع، إجماع على وجوب استقبال القبلة في الصلاة. يجب على من عاينها، أي عاين القبلة، استقبال عينها. أما من لم يعينها فيستقبل وجهتها، أي جهتها. وكذلك استقبال القبلة مظهر من مظاهر اجتماع الأمة الإسلامية. قبلتنا واحدة. دونك استقبال القبلة، le fait de se tourner vers le qibla pendant la prière, est la cinquième condition. Donc c'est l'avant-dernière ici. Vous voyez ? Et ce qui est visé par le qibla, c'est la Kaaba. Lorsqu'on parle de qibla, on parle de la Kaaba, en fait. Et on l'a appelé qibla. Pourquoi ? Parce que ça vient de, du terme istaqbala. Se tourner vers, avoir le visage face à quelque chose. Donc lorsque tu pries, la personne a le visage tourné vers la Kaaba. C'est pour cela qu'on l'appelle Al-Qibla. Les gens sont orientés vers elle, tournés vers elle. Donc les ulama, les musulmans, sont unanimes sur ça. Sont unanimes sur ça. Le fait qu'il est obligatoire de se tourner vers la Kaaba, Al-Qibla. Concernant maintenant celui donc qui est proche de la Kaaba et qui peut la voir avec ses yeux, qui peut voir la Kaaba avec ses yeux, lui, il sera obligé de se diriger vers la Kaaba elle-même. Taïeb, s'il la voit mais qu'il se tourne même de quelques mètres de la Kaaba, sa prière n'est pas valide. S'il la voit. Taïeb, s'il la voit, il sait que par exemple, là, la Qibla c'est le mur. Et moi je me mets comme ça. Alors que je vois le mur, il est juste là. Elle est valide ma prière, elle n'est pas valide. Parce que si j'avance, je ne vais pas toucher le mur. Donc celui qui voit la Kaaba, lorsqu'il avance, il faut qu'il arrive à un moment donné contre la Kaaba. Sinon sa prière n'est pas valide. Mais celui qui ne la voit pas comme nous, est-ce qu'on est obligé de vraiment se tourner vers la Kaaba de manière précise, au centimètre près? Là, là, son prix, là, on se met comme ça. Est-ce que si on avance jusqu'à Mecca, est-ce qu'on va toucher la Kaaba? Non, sûrement on ne va pas la toucher, sûrement. Il faut peut-être se retrouver, je ne sais pas où, au Yémen. Mais on ne va pas toucher la Kaaba. Mais ta prière, elle est valide. Parce que ce qui est demandé pour celui qui ne voit pas la Kaaba, c'est de prier vers sa direction et pas vers elle. Bi'iniha. Vers sa direction. Donc si en France, pour nous, la Kaaba, c'est le sud-est, eh bien, on doit se tourner vers le sud-est. C'est tout. On n'est pas obligé de viser la Kaaba. Ceux qui sont à Al-Médina, ils se dirigent vers quelle direction ? Vers le sud. Vers le sud. C'est bon, quoi ? Vers le sud. C'est pour ça qu'il dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma bayn al-mashriqi wal-maghribi, qibla. Ce qui est entre l'Orient et l'Occident, ou l'Est et l'Ouest, c'est ça la qibla. Mais ça, c'est pour ceux qui habitent au nord de la Kaaba. Est-ce que nous, on peut dire ça ? Non. Nous, on dit entre... ça va être compliqué. Nous, c'est le sud-est. D'accord ? Nous, c'est le sud-est. Donc, on dit entre le nord-est et le sud-ouest, c'est ça notre qibla à nous. T'as vu ? Non.
C'est une question, ça fait longtemps que ça... Est-ce que de l'autre côté, c'est qibla ?
Là, là, là.
Et pourquoi ?
Là, on doit se tourner vers la qibla dans la distance la plus courte possible.
D'accord.
D'accord. La terre, elle est ronde, hein? On a compris, la terre, elle est ronde. Cheikh Al-Fawzan, il dit, Hafidhahullah ta'ala, si tu mets la qibla derrière toi, ta prière, elle n'est pas valide. Donc, si tu pries comme ça ici dans la mosquée, tu l'as mise derrière toi, la prière, elle n'est pas valide. Si tu l'as mise à droite ou à gauche, à ta gauche, ta prière n'est pas valide non plus. C'est pour ça que certains ulama, ils ont dit le maximum de inhiraf permis, inhiraf, c'est-à-dire de déviation entre toi et la Kaaba, c'est 45 degrés. 45 degrés. Parce que si tu fais plus que 45 degrés, tu vas la mettre sur ton côté, à droite ou à gauche. Vous comprenez, quoi ? Exemple là, ça c'est la Qibla ici, dans l'angle, 45 degrés c'est où ? C'est là à peu près. Là, c'est 90. Là, c'est 90. Ça, c'est 45. Si toi, tu pries vers là, mais tu vas la mettre, la Qibla, sur ta gauche. Sur ta gauche. Alors que si tu pries moins de 45, c'est bon. C'est acceptable. Mais à partir de 45, khalas, tu l'as mis sur le côté. C'est bon, Yéro ?
Pour les mosquées qui sont construites comme ça, par exemple, où on arrive dans un coin, où ça devient petit, est-ce qu'on peut aligner le rang de manière perpendiculaire au mur?
Là. Non, si ça dépasse 45 degrés, t'as pas le droit.
Non, si ça dépasse pas, c'est mieux.
Si ça dépasse pas, c'est permis. Parce que c'est le djihad qui est permis. Là, pour nous, c'est le djihad. C'est la direction. C'est pas la Kaaba vraiment précise. Tant que ça dépasse pas 45.
Même si on est ma'moumine.
Les deux. Ça concerne l'imam et le ma'moumine. Ma'moumoun. Bien sûr. Ça concerne les deux, je crois. Ça concerne les deux. C'est pour ça que je me rappelle quand on avait prié en Italie avec le cheikh Al-Dafiri, il a mis l'imam, il a tourné un peu l'imam et il a tourné le soufouf aussi. Il a tourné le soufouf. T'as vu ? Il a dit à tout le monde, à tous les fidèles, de se tourner un peu vers Al-Qibla pour ne pas dépasser le degré de 45. De 45.
Et quand tu tournes dans un avion,
pour une prière obligatoire ou facultative?
Pour une prière obligatoire.
Tu fais ton maximum. Tu fais ton maximum. Si tu arrives à avoir où est la Qibla, tu tournes vers la Qibla. Après, si l'avion bouge, là, tu ne peux rien faire. D'accord? Mais au moins, au moment du Takbirat al-Ihram, tourne-toi vers la Qibla. Puis après, si l'avion change de direction, c'est pas grave, tu vois. C'est bon? Alors, ce qu'on disait.
La Qibla.
Non. Et également, la istiqbal, le Qibla, c'est un des aspects et des signes qui montrent l'unité de la Umma islamique. D'accord ? Le fait que toute la Umma soit tournée vers la même et seule Qibla, cela est un signe d'unité. D'unité et d'entente, alhamdoulilah. قال الشيخ وهذا هو الشرط الخامس وقد دل على اشتراطه من السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة الحديث أخرجه البخاري ومسلم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة أخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح واجمع العلماء على اشتراطه. Donc il dit le Cheikh Sulayman, le hadith qui est la preuve qu'on doit se tourner vers Al-Qibla, c'est lui rapporté par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu te lèves ou lorsque tu vas accomplir la prière, accomplis parfaitement les ablutions et tourne-toi vers Al-Qibla. Hadith, il est clair. Également le hadith dans lequel il dit entre l'est et l'ouest, c'est la Qibla. La Qibla entre l'est et l'ouest. Non. Pour les gens de El-Médine, pour les gens d'El-Médine, voyez, pour les gens du Yémen, ça sera entre l'est et l'ouest aussi. Parce que c'est le nord chez eux. C'est le nord là. Donc pour les gens qui sont comme nous, ou à l'ouest de Mecca, on dira entre le nord et le sud. Vous comprenez? Salim. T'as compris? Le hadith, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la Qibla, elle est entre l'est et l'ouest. Ça, c'est pour les gens de Médine qui habitent au nord. Ils habitent au nord. Mecca, c'est en bas pour eux. Donc la Qibla pour eux c'est entre l'est et l'ouest. Mais ceux qui habitent en bas au sud, c'est pareil. Ceux qui habitent à gauche de Mecca, dans ce cas-là, la Qibla sera entre le nord et le sud. Parce que la Mecca, la Kaaba, elle est là pour eux. Eux ils sont là.
Mais si on parle de hadith là, entre le nord et l'ouest, c'est 180 degrés.
180 degrés, non. Là. Parce qu'il ne faut pas la mettre sur le côté. Il ne faut pas la mettre sur ton côté. Ni derrière, ni sur ton côté. Ni derrière, ni sur ton côté. Non. Est-ce que c'est bon, Ikhwan? Il y a ijma, consensus des ulama, encore une fois, sur cette condition. Regardez. La'alla naktafi bihada. Inch'Allah. وسنتكلم فيما بعد عن سقط شرط استقبال القبلة متى يسقط هذا الشرط متى يسقط هذا الشرط وهذا إن شاء الله واجب لهم واجب لكم عفوا واجب لكم للدرس المقبل donc le devoir pour la semaine prochaine متى يسقط شرط استقبال القبلة. À quel moment cette condition qui est le fait de se tourner vers Al-Qibla peut ne pas être respectée? À quel moment il n'est plus obligatoire? À quel moment? C'est bon, Yahwa? Donc faites des recherches, Inch'Allah Ta'ala. Et celui qui a trouvé la bonne réponse, on fera dua pour lui. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا وعلى آله وأصحابه وسلم والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.